J'aime et j'écoute Radio Plus sur 104.3. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jou.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un grand maire de Lille, c'est Roger Salengro. Alors, quand on évoque le nom de Roger Salengro, chacun d'entre nous, bien sûr, a en tête le nom d'une rue, d'un bâtiment, mais aussi, le fameux hôpital, le célèbre hôpital de Lille. Évidemment, on pourrait penser que Roger Salengro était un grand médecin, au même titre que Oscar Lambret, par exemple, ou Hurier. Eh bien, non, pas du tout. Roger Salengro, au cours de cette émission, nous allons vous aider à le découvrir ou le redécouvrir.
ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב על האש המבוערת על המים הזקים על האיש השב הביתה מן המרחקים על כל אלה על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב על הדבש
God werd ik gezongen, ondanks ver van angst en pijn. Laat de koren van de oorlog ooit gezongen zijn. Maar al kan ik het begrijpen, zo bereidelijk gebed. Geen God, het doet een wereldbol in brand gezet. Het zijn de mensen, die het zo wensen, naar de zijde van de taal. Hebben geweren, die ze looien voor de strijd.
Meer als reshilan baruach, meer als hok nosher kochav, mishalot libi bachoshech nirshamot achshav. Anashmor li al kol eile, ve'al ahuvei nafshi, al hasheket, al habechi, ve'al zeh
Al kol ele, shemor na li eli hatov. Al hadvash ve'al haoket, al hamar ve'amatok. Al nata akor natuah, al tishkach et התקווה השיבני והשובה אל הארץ הטובה על כל אלה על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב על הדבש ועל העוקץ על המר
Vous venez d'écouter un chant de guerre et de paix, Al Kol Ele, composé par Vanesse van de Velde et qui chante avec Aura Sittner. Vous êtes sur à l'écoute de Radio Plus sur 104.3.
Et l'émission L'Heure Flamande, et aujourd'hui nous allons évoquer Roger Salengro. Alors Roger Salengro, son nom n'est pas d'origine espagnole, contrairement à ce que certains ont osé prétendre. En effet, Roger Salengro, c'est bien un nom flamand, c'est un nom d'origine tiwaise. Salen veut dire, en fait, désigne une couleur rouge foncé, brun, tandis que Gros, c'est l'orthographe francisée de Graus. En fait, ça s'écrivait en néerlandais, donc G-R-A-U-W, et qui désigne une étoffe grossière qui servait surtout à fabriquer donc des vêtements pour les classes populaires. Et donc, Salin Gros, c'est bien un nom donc de typique de la Flandre. Et d'ailleurs, Roger Salin Gros était très fier d'être flamand et au cours de sa carrière, il n'a jamais hésité à se revendiquer d'ailleurs flamand. Alors, on va commencer par le début, tout simplement. Roger Salin Gros, comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas médecin, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec le nom du grand hôpital à Lille, mais un homme politique qui est né. Il est né le 30 mai 1890 à Lille. Cette année-là, quelques mois plus tard, un autre grand Lillois va voir le jour. Comme quoi Lille a donné de grands hommes à notre pays. Il s'agit bien sûr du général de Gaulle qui lui est né donc le 22 novembre 1890. Alors Roger Salin Gros était issu d'une famille, on peut dire, de classe plutôt moyenne. Il est né dans le quartier de Lille Fives, ce quartier donc qui est un quartier populaire, un quartier ouvrier où les usines et les maisons sont imbriquées les unes dans les autres. À l'époque, on allait construire sa maison à l'ombre des grandes cheminées. On se rendait à son travail à vélo ou à pied même. Il n'y avait pas, bien sûr, comme aujourd'hui encore, les problèmes d'embouteillage pour aller au travail. Sa famille, peu de temps après sa naissance, s'installe à Dunkerque, où il fera d'ailleurs ses études au lycée Jean Bar, que Marie-Jo connaît bien pour l'avoir fréquenté pendant quelques années aussi. Et c'est un élève plutôt studieux et même plutôt brillant, on peut le dire. Il regagne Lille pour suivre des études au lycée Faidherbe. Et ensuite, il va s'inscrire en faculté de lettres. Alors, veut-il être avocat ? Non, du tout, il se destine plutôt au journalisme.
quadrille Van Bort à partir du rivage. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous consacrons donc ce numéro à Roger Salengro. Alors, le jeune Roger Salengro s'est inscrit à la faculté des lettres classiques qui se destine au journalisme. Très vite, il est sensible à ce qui se passe autour de lui. Il est particulièrement révolté par les conditions très difficiles de la classe ouvrière. Et avec d'autres amis de la faculté, eh bien, il crée une section de ce qu'ils appellent les collectifs à l'époque, donc d'inspiration plutôt donc socialisante à l'époque. Et donc le jeune Salengro donc commence déjà à s'intéresser à la chose publique et en particulier aux conditions bien sûr de ses concitoyens et en particulier des ouvriers des usines textiles. En effet, Lille, Roubaix, Tourcoing sont alors des villes d'une belle prospérité, mais à quel prix social ? Si certes on peut voir de très belles demeures se construire, et en particulier ceux qui connaissent le grand boulevard qui relie ces trois villes, eh bien on peut constater de très belles demeures. Par contre, eh bien malheureusement, les ouvriers, eux, vivent dans les courées avec un confort vraiment réduit au minimum. Tout ça, ça révolte bien sûr le jeune Roger Salengro. Cette misère sociale, eh bien, évidemment, révolte notre jeune étudiant et il s'inscrit alors à la SFIO, qui est la section française de l'Internationale ouvrière. C'est un mouvement politico-syndicaliste qui est créé en 1905. D'ailleurs, un des fondateurs est ni plus ni moins Jean Jaurès, donc une autre figure, bien sûr, particulièrement importante dans le mouvement des socialistes de l'époque. Mais Roger Salengro se réfère plutôt à Jules Guesde. Les activités de politique, bien sûr, du jeune Salengro attirent rapidement l'attention de la police. En effet, à l'époque, eh bien, on reste encore très marqué par ce qui s'est passé 40 ans plus tôt avec en particulier la Commune de Paris qui se déclare à l'époque en 1871 commune libre. La répression sera terrible et Roger Salengro, bien sûr, du fait de ses activités, il est dans le collimateur de la police.
Trots, inhouding, met zwart op je heupen. Stot de staatswacht om de muren te verdedigen. Juist nog een aanval, scholf afgeweten. De lucht vult zich met de overwinningskreten. Rust en vrede, al is het maar voor even. Ze komen nog terug, dat is door iedereen geweten. En ook al is het een verloren zaak, niemand gaat opgeven. Totdat de muur valt, blijft de vlag in leven. Vrouw en kind voor de vuren verscholen. Elke man die kan vechten, moet zijn traag om beloven. Golf nog golf, toch blijft de kop boven water. Want de bemanning doet tot naar wijken van oorlog. Stad gevallen, poorten staan open. We hebben ze laten bloeien, de vijand is verschoten. Met mis op de keel, toch op de knieën gedwongen. Kwam deze nog uit de mond van deze trotse senioren.
Maar staat, lei, lei, niet die van a. Maar staat, lei, lei, niet die van a. Van tong tot na, maar staat, nooit zonder staat.
In een bunker verscholen. Verschaanst achter schietgaten in een van de forten. De geleideren waren toen al lang teruggetrokken. Tegen die overmacht was de voorhand verloren. Ze spelen mee om als helden te scoren. En maak een paar punten voor zijn witte vlag zwaaien. Handen achter het hoofd naar een werkkamp aan sloven. Ver weg opgesloten gaan wij naar de Thuishoven. In de stad was de luxe weggemooien. Moest dan schoven met een boon om te kunnen schoven. Heel er waken het gekampt op zoek naar joden. Als je erin verstopte mocht je zelf ook meekomen. Wij en twee landen in de straten. Souvenirs orfaan worden ruïners en krotes. Uit de cinema kwam nog een slachtoffer gekropen. Met de dood al in de ogen sprak die zijn laatste woorden.
Maastad, Maastad, ei, ei. Niet die van a, a, a. Maastad, Maastad, ei, ei. Niet die van a, a, a. Van tong tot na. Maastad, nooit zonder sta.
ben uitzitten. Arm om principes verderven zonder kans. Mik het zout aan we strooien en moeite zijn de weg te vinden. Het leven in een bak, al op de wacht, laatste dienststelling. In zon, zilverlaten. Al die onbekende zielen bevolken de straten. Anarchie, de wet sinds een eeuwige vaar. Het is eten voor zich, tot de dood ons verzamelt. Ik schrijf aan de laatste strofe. Interesterende licht, voor daar wie helemaal het over. Wil ik iets gezegd, uit doen beloven. Uitzien heren, mijn laatste woorden. Mijn stad, ei, ei, zal nooit vergaan, nee, nee. Mijn stad, ei, ei, dat is mijn Antwerpen.
Le groupe Touriste vous interprétait Main Stat, ma ville. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons donc Roger Salengro, qui n'hésitait jamais à se revendiquer donc flamand. Roger Salengro abandonne ses études. Il n'aura d'ailleurs pas sa licence de lettres. Et du fait qu'il renonce donc à poursuivre ses études, eh bien, il est appelé sous les drapeaux. À l'époque, la durée du service militaire elle était de 2 ans. Et donc, il rentre sous les drapeaux à l'âge de 22 ans. Nous sommes en 1912. À cette époque, eh bien, il y a un gros débat. Le gouvernement souhaite porter la durée du service militaire de 2 ans à 3 ans. En effet, il y a des bruits de guerre avec en particulier le voisin, l'Allemagne. L'Allemagne qui, à défaut de ne pas avoir des colonies aussi importantes que le Royaume-Uni et la France, eh bien, cherche naturellement à élargir son territoire pour eh bien tout simplement agrandir son marché et assurer bien sûr la production et la vente de ce qu'il fabrique. La France se sent donc menacée et décide de vouloir donc porter la durée du service militaire de 2 ans à 3 ans. Alors Roger Salengro, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ce projet de loi et il va jusqu'à manifester contre cette loi. Il va d'ailleurs manifester alors qu'il est habillé en militaire, ce qui bien sûr, il se fait tout de suite repérer par les forces de sécurité et évidemment... Roger Salengro, eh bien, va subir les conséquences immédiates. Il est à l'époque incorporé au 33e régiment d'infanterie à Arras. Il avait choisi de suivre une formation de sous-officier, mais évidemment, vu son attitude contre la loi des 3 ans, eh bien, tout simplement, il sera radié de cette formation. Les autorités, les cadres de l'armée, bien sûr, n'ont plus confiance en ce jeune Roger Salengro. La loi militaire donc des 3 ans passera et sera votée en 1913.
Ik ben soldaat, doch tegen mijn begeren. Toen ik het werd, heeft men mij niet gevraagd. Men trok mij mee, ik mocht mij niet verweren. Ik werd gevangen en als wild gejaagd. Van het ouderhuis en van mijn liefjes harte verjoeg men mij en uit de vriendenkring. Als ik daaraan denk, met kommer en met smarte, ontgloeit mijn toorn en mijn verwittering. Ik ben soldaat, moet dag en nacht marcheren. In plaats van werken moet ik op schildwacht staan. In plaats van vrij te zijn moet ik salueren. Voor lummels vol van domme eigenwaan. En in de strijd moet ik de moordenaar worden van broeders die ik geen van allen haat. Daarvoor krijg ik verminkt een ridderorde en hongerend roep ik dan, ik was soldaat. MUZIEK Duitsers zijt of Denen, uit Frankrijk, Oostenrijk of Engeland. Met rood of blauwe broeken aan uw benen, reikt aan elkaar voor goed de broederhand. Kom, laten wij naar huis te samen marcheren, onszelf bevrijden uit de slavernij. Om hand in hand de oorlog te verleren, soldaat der vrede noem ik gaarne mij.
Ik ben soldaat, je suis soldat, je n'ai pas demandé à l'être. Vous chantez Guido Belcanto, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et c'est un petit peu ça aussi que Roger Salengro animait. Évidemment, la guerre éclate entre la France et l'Allemagne en ce mois d'août 1914. Et le 2 août, Roger Salengro est arrêté sur ordre du préfet de Lille. Pourquoi ? Bah, tout simplement compte tenu de son attitude. Évidemment, comme d'autres d'ailleurs, on les isole de façon... Parce qu'on n'a pas confiance, on a peur qu'il, évidemment, démoralise les troupes. Et donc Roger Salengro va rester prisonnier durant 3 semaines. C'est grâce à l'intervention de Gustave Delory, qui est à l'époque conseiller général du Nord et qui va donc demander aux autorités militaires de libérer Roger Salengro. Roger Salengro, eh bien, lui va partir donc au front. Il va partir se battre donc en Champagne. Et évidemment, comme il y a une certaine méfiance à son égard, on ne va pas lui donner les armes, mais il va jouer le rôle d'agent de liaison. Alors évidemment, cette période de guerre va profondément le marquer. Et ici, nous allons d'ailleurs vous faire écouter 2 témoignages, un témoignage d'un auteur français et un autre d'un auteur allemand.
On se réveille, on se regarde, Paradis et moi, et on se souvient. On rentre dans la vie et dans la clarté du jour, comme dans un cauchemar. Devant nous renaît la plaine désastreuse, où de vagues mamelons s'estompent, immergés, la plaine d'acier rouillée par places, et où reluisent les lignes et les plaques de l'eau, et dans l'immensité, semés çà et là, comme des immondices, les corps anéantis qui y respirent ou s'y décomposent. Paradis me dit, voilà la guerre. Oui, c'est ça la guerre, répète-t-il d'une voix lointaine. C'est pas autre chose. Il veut dire, et je comprends avec lui, plus que les charges qui ressemblent à des revues, plus que les batailles visibles déployées comme des oriflammes, plus même que le corps à corps où l'on se démène en criant, cette guerre, c'est la fatigue épouvantable, surnaturelle. Et l'eau jusqu'au ventre, et la boue, et l'ordure, et l'infâme saleté. C'est les faces moisies, et les guerres en loques, et les chairs en loques, et les cadavres, qui ne ressemblent même plus à des cadavres, surnageant sur la terre vorace. C'est cela, cette monotonie infinie de misère, interrompue par des drames aigus. C'est cela, et non pas la baïonnette qui étincelle comme de l'argent, ni le chant du coq, du clairon dû au soleil. Donc là, c'est un texte dans la boue des tranchées de Henri Barbusse, tiré d'un recueil sur...
Et donc là, vous allez écouter cette fois une version d'un auteur allemand pour la même période de cette grande guerre dont on a fêté encore les 100 ans il y a peu.
Je me dépêche de revenir sur mes pas et je tombe sur un spectacle de débandade. Ceux qui sont devant moi veulent reculer et ceux qui sont derrière veulent avancer. Un paquet d'hommes se bousculent, affolés par la peur. Certains font déjà des tentatives pour sortir de la tranchée. et père dans la tête, veulent s'exposer à une mort certaine. Ils retombent lourdement, retenus par d'autres qui s'accrochent à eux en grappe. Comme par miracle, avec l'aide d'un adjudant du 76e, qui tape sans ménagement sur les têtes avec une grenade, je parviens à débrouiller les chevaux, vaille que vaille, et à ménager un peu d'espace vers l'avant. Car nous avons besoin ici d'un certain recul pour que les grenadiers puissent bondir en avant et en arrière et ne soient pas entravés dans leur mouvement. Cette confusion n'aurait pas pu se produire si toute une série de gens qui n'y avaient pas leur place ne s'étaient pas portés en avant quand les choses se présentaient bien. Nous nous retranchons derrière un épaulement. Je creuse devant moi une cavité plate et j'y dépose une douzaine de grosses grenades anglaises, comme des œufs dans un nid. Au créneau, on installe des mitrailleuses qu'on braque de manière à prendre la tranchée en enfilade et des tireurs isolés échangent des projectiles avec un adversaire invisible. Et maintenant qu'ils viennent s'ils en éprouvent l'envie. Ils se casseront la tête contre le mur. Au-dessus de moi, à un créneau, un authentique docker du port de Hambourg, trapu, une expression sauvage sur sa face rougeaude, est installé derrière son arme. Je lève les yeux vers lui juste au moment où un coup fracasse bruyamment son crâne qui craque comme une planche épaisse. Je le vois alors s'affaisser lentement, les genoux pliés, tandis que son corps s'appuie encore contre un angle de l'épaulement. Je contemple fixement une tache de sang qui grandit à une vitesse effrayante, avant de former un large ruisseau qui se répand sur le sol de la tranchée. Donc c'est un bref épisode d'une grande bataille dans un livre « Feu et sang » d'Ernst Jünger.
Côté France comme côté Allemagne, eh bien, c'est le même drame de la guerre. Et Roger Salengro, lui, est confronté, bien sûr, au même problème. Un de ses amis est tombé, il veut récupérer son corps. Il demande l'autorisation à son supérieur d'aller chercher le corps de son ami. Celui-ci lui l'accorde et le voilà parti pour récupérer le corps de son copain. Malheureusement, Roger Salengro sera fait prisonnier par les Allemands le 7 octobre 1915. Seulement voilà, certains cadres de l'armée le soupçonnent d'avoir déserté. Il est jugé par contumace en janvier 1916, mais heureusement il ne sera pas condamné.
Geboren voor de oorlog, ik was er 3 toen hij begon. En mijn vroegste herinneringen zijn de wetten van kanon. Ik was een dunne kleine jongen en ik speelde op de straat. In de kroeg werd er nog gezongen en mijn vader was soldaat. Ik aanvaarde zonder vragen Boegenwald, vond ik gewoon. Het was weer een van die namen met een vreemde Duitse toon. Ik zag de grauwe legerbende, ik vond het allemaal normaal. Ik had niets anders leren kennen in die tijd van vuur en staal. Maar ik zag wat er gebeurde en ik voelde het in mijn bloed. Ik wist dat puinen vochtig geurden naar formol en ranzig gloed. Ik zag de vloek die ons bedreigde, ons vervreemde van de vreugd. Ik zag de tranen van de vrouwen en de rimpels van de jeugd.
stak mijn hoofd onder de dekens voor het geronk van de V2, die op zekere nacht vlakbij viel, maar voor mij viel het nog mee. Een paar krassen van de scherven en toen liep ik op de straat, waar ze lagen om te sterven met onmenselijk wit gelaat. Ik was te klein om de gevaren te begrijpen toen misschien. Het was eerst in later jaren dat ik het kon overzien. Ik verwenste stalen mannen en ik scheid in een kanon. Ik werd geboren voor de oorlog, ik was er 3 toen hij begon.
Geboren voor de Noor, alors j'étais né pour la guerre, interprété par Gorky. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc Roger Salengro est fait prisonnier donc par les Allemands le 7 octobre 1915 et il va donc rester prisonnier en Allemagne. Il va d'ailleurs faire plusieurs camps de prisonniers. On va naturellement l'obliger à travailler dans les usines, mais Roger Salengro va encore une fois ici eh bien être un peu le meneur pour ne pas travailler, en particulier dans les usines d'armement, et c'est ainsi qu'il est condamné plusieurs fois par des juges allemands pour ces faits de résistance. Il est très affaibli et d'ailleurs il va faire partie des échanges de prisonniers en avril 1918. D'ailleurs, quand il est rapatrié via la Suisse, eh bien, beaucoup ne lui donnaient pas cher de sa survie parce qu'il était tellement affaibli. On dit qu'il ne pesait plus que 42 kilos au moment où il a été donc rapatrié en France. Néanmoins, donc, il va réussir à retrouver la santé après, bien sûr, une bonne année de convalescence, et il reprend alors ses activités au sein de la SFIO. Il devient d'ailleurs très vite une personnalité incontournable. Il se révèle être un talentueux orateur, il aime bien débattre aussi, c'est d'ailleurs un débatteur hors pair, il aime les débats contradictoires, il n'hésite pas à croiser le fer, comme on dit, avec ses adversaires qui sont aussi pugnaces que lui-même. Il fonde le quotidien Le Cri du Nord en 1919. Il est élu alors conseiller municipal, puis très vite il sera élu aussi comme conseiller général, qui restera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. C'est un organisateur aussi hors pair qui prend en charge la gestion donc de la section socialiste de Lille au départ, et puis très vite, compte tenu de ses talents d'organisateur, il va prendre en charge la gestion de la section socialiste de Lille Roubaix-Tourcoing, qui est alors une des sections les plus importantes du Parti socialiste de l'époque. Il participe bien sûr à de nombreux congrès nationaux, mais aussi internationaux. Il se fait un nom. Mais en 1920, alors qu'il y a l'Internationale communiste, en fait, il refuse d'adhérer à l'Internationale communiste en 1920. Et d'ailleurs, le Parti communiste de l'époque, eh bien, ne va pas du tout apprécier l'attitude de Roger Salengro. Et c'est eux qui, la première fois, vont ressortir cette affaire de désertion supposée dans leur journal en 1921. Alors évidemment, il en est affecté, mais le Parti communiste très vite va abandonner cette thèse et va abandonner bien sûr cette accusation. Néanmoins, il restera des traces, puisque l'opposition, en particulier les partis royalistes, vont se saisir de cette affaire qui ne fera que s'amplifier. Roger Salengro est élu député en 1928. À l'époque, on pouvait cumuler les mandats, donc il n'y avait pas de problème. Il est conseiller général en 1919, donc jusqu'à son décès. Le krach de 1929, bien sûr, va plonger l'Europe et le monde occidental en particulier dans une profonde récession. L'Allemagne en particulier sera durement touchée. Il y a des mouvements très violents. Il y a même des bagarres entre les deux tendances. On pense même que l'Allemagne va rejoindre la jeune l'URSS de l'époque qui était créée en 1917. Et donc il y a des affrontements très très violents. En France, pareil, il y a aussi des mouvements de grève très très importants. Et d'ailleurs, Maxence van der Merch fait écho dans ses romans. Et donc nous allons d'ailleurs vous en donner ici des extraits.
Jacques, tout en songeant, battait le quartier de la gare. Il allait sonner partout, présenter aux gens une liste de souscriptions pour les grévistes. C'était lui qui souvent rapportait au syndicat la plus forte somme, jusqu'à 800 et 1000 francs, dont il ne distrayait même pas la valeur d'une chope de bière. Mais aussi connaissait-il à fond l'art de stimuler la générosité des gens. Ouvertement, il tirait devant eux sa liste et la leur montrait. Un tel a donné tant, un autre tant. Les gens savaient ainsi que la liste ferait tout le quartier, avec la somme versée en regard des noms. Ils n'osaient lésiner. Il faut d'ailleurs avouer que, pour susciter le zèle des donateurs, Jacques majorait tranquillement certaines sommes, en tête de liste, et mettait 5 francs là où on avait donné 20 sous. Il ignorait Panurge et ses moutons, mais il spéculait aussi bien que le héros de Rabelais sur la sottise et la vanité humaine. Jacques était aussi fécond en idées ingénieuses. De lui venait encore la pensée d'aller quémander dans les magasins des dons en nature plutôt que de l'argent. N'avez-vous pas de vieux rossignols pour des grévistes ? Demandait-il dans toutes les boutiques. Ici, de vieilles chaussures, ailleurs des paquets d'épicerie avariés, ailleurs des tissus défraîchis. Il récoltait tout ce qui, dans les magasins, s'était gâté ou démodé. Il enfouissait pêle-mêle son butin dans son sac. Le soir, il rapportait sa glane au syndicat. Le manger partait avec pour les cantines populaires. Les vêtements étaient distribués aux plus nécessiteux. Maintenant, à son exemple, des équipes de quêteurs battaient toute la ville, divisées en secteurs, qu'on se répartissait méthodiquement pour éviter de lasser la charité publique par des sollicitations trop fréquentes. En passant devant la gare, Jacques remarqua qu'une foule considérable se massait devant les portes. Il se souvint. Le journal, pour aujourd'hui, annonçait un départ d'enfants de grévistes. On avait discuté la chose l'avant-veille en assemblée générale. Le syndicat de Valenciennes avait fait demander 20 enfants. Celui de Saint-Amand, 10. Celui de Maubeuge, 15. Un peu partout, les syndicats ouvriers réclamaient quelques enfants pour aider les camarades de Roubaix. Aujourd'hui, 60 gosses s'en allaient. Donc c'est un extrait de « Quand les sirènes se taisent » de Maxence van der Merch.
Et donc il évoque bien sûr la solidarité ouvrière pour que les grévistes des usines textiles de Roubaix puissent continuer. C'est une sorte de caisse de solidarité qui puisse continuer bien sûr à lutter et réclamer justice. Et ici, nous avons un deuxième texte donc, que nous allons vous faire découvrir.
Marchez, dis-je, si c'est d'accord avec votre syndicat. Moi, je n'ai pas reçu d'ordre du mien. Tous les syndicats sont d'accord ensemble. Alors, je ne peux rien dire. Et j'ajoutais tout de même, parce que la chose me semblait très grave. pourtant, je n'accepte pas votre affaire d'embauche pour les délégués cégétistes. Ce n'est pas possible pour un tas de raisons. Mais je commençais à les agacer. On se fout pas mal de tes raisons, dit Dubosc. Je sentis que j'en avais trop dit. Il était temps de me taire. Ma résistance les irritait. J'avais pensé qu'autour de moi, on m'écouterait, on me soutiendrait, que ma protestation en amènerait d'autres. Personne ne bougea. On m'écouta, on m'approuva peut-être. Mais en silence, tout le monde au fond avait peur. Je compris, une fois de plus, que la foule est lâche et que je ne devrais jamais compter sur elle. Voilà, dit Beck, qui dirigeait tout le groupe. On va porter ça au patron. Dis donc, intervint-je encore, je viens avec vous. Pourquoi ? Pour représenter mon syndicat. J'aurais voulu être témoin de cette entrevue, pour qu'ils ne puissent pas ensuite venir raconter aux ouvriers toutes sortes de boniments. Je les savais vantards et surtout menteurs. J'espérais les empêcher de bourrer le crâne aux autres. Mais Beck me devina. « On n'a pas besoin de toi, dit-il. On te rendra compte par la suite. T'as qu'à rester ici comme les autres. » Je n'avais plus qu'à me retirer et rentrer dans la foule, tandis que l'équipe des meneurs s'en allait vers les bureaux. On me regardait beaucoup. On chuchotait autour de moi. J'étais l'objet de la curiosité de tous. On se disait « Qu'est-ce qu'il va faire le jossiste ?» Je me sentais déjà isolé. On s'écartait, on avait peur. Je devenais compromettant. Je fis semblant de ne pas m'en apercevoir et je descendis l'air de rien jusqu'à la chaufferie où les soutiers incertains alimentaient toujours les chaudières et maintenaient la pression. Ils ouvraient au fond de leur cave noire, les gueules pourpres des foyers comme des soleils. Ils lançaient hâtivement quelques pelletées qui se volatilisaient dans les fournaises. Et ils venaient s'accouder aux larges soupiraux, sortir au ras du pavé leurs têtes de nègre aux larges dents blanches, pour prendre à la fois de l'air frais et des nouvelles. Je n'y fus pas longtemps. La délégation redescendait. Le même Dubosc grimpa sur le fût de mazout. Beck, sans doute, ne tenait pas à user trop vite toute son influence. « Camarade, cria l'homme, le patron refuse, c'est la grève, on occupe. » Une bande autour d'eux entonna l'internationale, et comme une espèce de cortège se formait, point levé pour pénétrer dans les salles, on vit apparaître au haut de l'escalier des bureaux M. Grouan et le comptable. Celui-ci avait une grande affiche blanche dans les mains. Il descendit, alla jusqu'à la porte de l'usine et il colla l'affiche. La foule courut voir. L'affiche annonçait qu'à partir du lundi suivant, l'usine serait fermée et le personnel licencié. C'était le lock-out en réponse à la grève.
Donc des combats syndicaux et sociaux particulièrement durs dont faisait partie bien sûr Roger Salengro. Et je vous rappelle que en février 1934, eh bien il y avait eu des ligues qui se sont organisées, qui ont manifesté, qui à Paris en particulier, et on craignait même un coup d'État à l'époque, puisqu'il y avait des ligues qui voulaient s'inspirer de ce qui se passait en particulier en Italie avec Mussolini. Évidemment, Roger Salengro était particulièrement hostile à ceci, à ces ligues. Et d'ailleurs, quand il sera ministre de l'Intérieur lors du Front Populaire, eh bien, il va purement et simplement dissoudre ces ligues. Et évidemment, à partir de là, il va faire l'objet d'attaques régulières et l'angle d'attaque sera l'attitude que Roger Salengro a eue lors de la Première Guerre mondiale, donc en 1915, les détracteurs vont appuyer là où ça fait mal, comme on dit, à savoir qu'ils vont l'accuser de désertion, que en fait c'est un homme lâche, etc. Et donc en particulier l'action française va être la plus virulente. Roger Salengro aura beaucoup de mal, bien sûr, à accepter ces accusations qu'il estime injuste, et ça va fatiguer notre homme à tel point qu'il va finir par tout simplement se suicider le 17 novembre 1936. Il repose au cimetière de Lille, sa ville natale, le bureau de Roger Salengro. Eh bien, il est resté tel quel depuis. Aucun maire qui lui a succédé n'a accepté, bien sûr, de prendre son bureau. Donc, il est resté intact. Roger Salengro, c'était un homme qui était fier donc de ses origines flamandes, et d'ailleurs l'hôtel de ville de Lille avait brûlé en 1916, et donc il était question bien sûr de reconstruire. Alors ils n'ont pas voulu reconstruire à l'identique, mais ils ont construit un nouvel hôtel de ville, et c'est Roger Salengro qui lui a voulu mettre à côté de cet hôtel de ville le beffroi, ce beffroi qui était avec une architecture très élancée. C'était le premier bâtiment d'une hauteur de plus de 100 mètres construit en béton et en fer. Lors de l'inauguration, Roger Salengro devait dire « Toute la ville sera fière de ce monument qui attestera notre volonté flamande d'indépendance farouche. Ce sera notre tradition de franchise communale qui se perpétuera à travers les siècles. » Et donc, il n'hésitait pas, d'ailleurs, Roger Salengro, à accueillir ses hôtes à la mairie par ces mots « Bienvenue en terre de Flandre ». Un mois avant sa disparition, il déclarait lors d'un banquet « Buvons à la gloire de notre Flandre, dont rien au cours des siècles ne sut venir à bout, ni la guerre, ni l'invasion, ni l'incendie, ni le pillage de notre Flandre qui, relevait ses ruines, donna au monde l'exemple de son énergie farouche. » Et donc Roger Salengro était fier de ses origines, fier de sa Flandre, et c'était un grand bâtisseur qui avait le souci de la justice, et qui, disons, l'initiateur de ce beffroi magnifique que l'on connaît aujourd'hui à Lille. L'émission touche à sa fin, il y a encore bien des choses à dire sur ce grand homme, mais peut-être une prochaine fois. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus.
En als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Even weg van Holland, en Vlaanderen is dichtbij. En als ik vrij wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Ik voel me zo verlicht als ik Vlaanderen binnenrijd. Even weg van alle dingen die ik thuis vaak moet verdringen. Nieuwe dagen, nieuwe nachten, open voor het onverwachte. Ik voel me in Vlaanderen zorgeloos, ik voel me in Vlaanderen vrij. En als ik lachen wil, ga ik naar Vlaanderen. Want ze lachen niet zo gauw, maar als ze lachen, is dat echt. En als ik praten wil, ga ik naar Vlaanderen. Waar het laatste woord voorlopig nog door niemand is gezegd. Waar gesprekken altijd duren, tot de eerste morgenuren. Waar ze eindeloos kunnen drammen, waar de ruzie op kan vlammen. Waar de reden twist uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht. En als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt. En als ik heimwee heb, wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn heimwee ongemerkt versmelt. Met een even oud verlangen dat in Vlaanderen is blijven hangen. In de dorpen en de steden, met een rijk maar zwaar verleden. dat Brussel in zijn logboek niet of liever niet vermeld. Ik verlang naar jou, dus kom naar Vlaanderen. Ik kan hier nog niet weg, want ik heb hier nog te doen. Als jij naar mij verlangt, kom dan naar Vlaanderen. Dan laat ik het je zien, Vlaanderen nu en dat van toen. De mensen en de dingen, waar ze in Vlaanderen van zingen. Ik blijf hier nog wat spelen, maar wij kunnen Vlaanderen delen. Want Vlaanderen komt dichterbij met ieder nieuw seizoen.